Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi. Je vous souhaite un excellent dimanche, merci de votre fidélité. Les GG, c'est l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast ou les trois en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG. Le PSG a remporté hier son 11e titre de champion de France, une première dans l'histoire. Malgré une saison chaotique, rocambolesque, Paris fait-il quand même un beau champion. À 10h, le bras de fer des GG autour du Grand Prix de Monaco, le 80e de l'histoire, un décorum magnifique, mais un Grand Prix souvent terne. Alors pour vous les GG, on va y aller cash. Monaco, c'est chiant ou c'est pas chiant? On va régler une bonne fois pour toutes cette question. Et puis 11h, nous passerons la seconde avec la 122e édition de Roland-Garros, les internationaux de France qui débutent aujourd'hui comme tous les ans. Nous avons envie de vibrer avec nos Français. Faut-il être indulgent ou exigeant avec eux? Nous nous poserons la question. Joe Wilfried Tsonga sera notre invité exceptionnel. Et puis ne manquez pas votre séquence. Le guet-apens pour vous, les grandes gueules du sport, le fameux débat caché. Vous ne savez rien, et pourtant, enfin, sur ce débat, évidemment, je ne me serais pas permis. Et pourtant, vous allez devoir tout nous dire, ce sera autour de 10h40. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme Roland Garros, c'est sous.
Ah, d'accord.
Ah, même lui, il les assume pas, ça promet. Bon.
Pardon. Une grande gueule qui, comme Roland Garros, c'est souvent plein au mois de mai. Simon Dutin, salut Simon.
Pas au mois de mai, Jean-Christophe, tant qu'on y est. Salut tout le monde.
Ça va, mon Simon?
Ça va.
Je
ne
l'ai pas assumé, ça m'a fait rire ce matin.
Bon, t'as déjà fait pourtant bien pire, tu sais.
C'est vrai?
Même en privé, mais tu sais, donc
oui,
non,
vrai.
Vas-y. Franco.
Très heureux de vous retrouver ce week-end en tout cas. Une grande gueule qui, comme Roland Garros, tourne à plein régime 3 semaines par an. C'est beaucoup pour lui. Renaud Longuèvre, salut Renaud. Renaud, une fois. Renaud Laguna, deux fois.
Oui, je suis là.
Ça va, Renaud?
Salut JC.
Salut Renaud.
Ouais, bon, en tout cas, je suis très content de te recevoir et tu vas sortir tout de suite de cette grotte et tu vas venir dans le studio RMC, mon cher Renaud. Une grande gueule qui, comme Renaud Longuèvre, est un monument du sport français, mais quand même un peu droite. Hein. David Douillet, salut David.
Salut mon JC, comment ça va?
Ça va bien et toi?
Est-ce que tout le monde a remarqué ta blague, ta vanne médiocre, Renaud Laguna? Personne l'a remarqué, ça.
Si. On fait plus gaffe.
Non, mais voilà. C'est grave. T'es à l'antenne, c'est pas possible.
T'es à l'antenne.
Attendez, vous êtes en train de me dire qu'on est en direct là?
I think
c'est-à-dire
so.
Que toutes mes vannes ne seront pas coupées.
Renaud Laguna, mais c'est des blagues de ma génération. Tu peux pas faire ça.
Fuego à la rigueur, ça aurait été drôle.
Vous préférez quoi? Mégane, Clio, tu préférais quoi? Laguna, c'est pas mal, Laguna, non?
Ouais, moi j'aime bien. Hein? C'est vraiment celle qui tirait le mieux en plus. Laguna, papa.
J'aurais pu dire safran aussi, c'est pas mal. Ça me fait penser à l'épice, tout ça, à la paella. Donc, bon, j'adore, mais bon, rien à voir. Et puis une grande gueule qui, comme Renaud Longuèvre, qui, comme Roland Garros, pardonnez-moi, et sa terre battue, soit tu l'aimes, soit tu la détestes, Marie Martineau. Salut Marie.
Ah, oui, il paraît que je suis clivante, c'est rigolo quand même. Hein. C'était déjà le cas à l'école quand j'étais petite. Soit j'avais des super copines, soit elles me détestaient, les meufs, je sais pas.
Ouais. Ça m'étonne pas, tu vois.
Moi non plus.
Mais moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais encore mis le doigt dessus, mais en fait, je m'en fous après tout, tu vois.
Bien sûr. Et moi, je t'adore, hein, pour le coup.
Ok, bon, super.
Mais Simon, lui, te déteste. Mais bon. Tu es habillée en blanc, là, c'est pour Roland? La robe blanche?
Non, c'est pour Wimbledon. On a dit hier, on va tous à Wimbledon. Marion nous a tous invités, alors très bien.
Oui, enfin, tu connais Marion, elle nous invite et tout ça. Et bien, à mon avis, on est pas prêt de voir du gazon, si tu veux bien m'écouter. Bon, bref, en tout cas, on est ravis de vous avoir, les GG. Vous aussi, les auditeurs, on a beaucoup de choses à vous raconter ce dimanche, vous l'avez bien compris, un magnifique dimanche de sport, vous n'allez rien manquer, Roland Garros, le Grand Prix de Monaco, je vous dirai tout ça durant cette émission. On va débuter avec cette citation de Charles Baudelaire qui a dit un jour, le beau est toujours bizarre.
La une des grandes gueules du sport.
Leo Messi pour l'ouverture du score avec le petit travail de Kylian Mbappé sur le côté gauche. Il donne en première attention dans la petite intervalle et là il suffit de se lancer et de croiser la frappe à mi-hauteur. C'est absolument parfait. Le geste est totalement maîtrisé. 58e minute ici à la Méno et c'est Paris qui ouvre le score 1-0. Leo Messi à le but strasbourgeois. L'égalisation signée Kevin Gamero avec un cafouillage d'abord avec cette reprise à l'entrée de la surface de réparation qui est repoussée d'abord magnifiquement par Giorgio Donnarumma. Il reste 12 minutes à jouer et nous revoilà partout entre Strasbourg et Paris.
Strasbourg-Paris Saint-Germain, un but qui pour l'instant ne change rien, mais si Paris s'incline à Strasbourg, il faudra encore attendre une semaine pour être champion.
Terminé messieurs, le Paris Saint-Germain est officiellement champion de la Ligue 1 et le Racing de Strasbourg est officiellement maintenu en Ligue 1 également. Les deux dernières minutes n'ont servi à rien.
Champion mon frère.
11e titre de champion de France, donc c'est un record dans l'histoire avec ce match nul à la Méno hier soir pour le Paris Saint-Germain. Hier soir, le PSG est devenu le club le plus titré de France de notre championnat, dépassant Saint-Etienne. Et ces 10 titres, même si les Parisiens ont connu une saison très agitée, ils auront réussi le tour de force d'être premiers de bout en bout du championnat, de la première à la 38e journée, ce qui est inédit. La musique qui fout les jetons et cette question: Paris fait-il quand même un beau champion ? Oui ou non ? Simon Dutin ?
Oui.
Marie Martineau ?
Je m'en fous. Non. Non.
Renaud Longuèvre ?
Non.
David Douillet ?
Moi, j'ai dit bof. Et en normand classique, ça veut dire non.
Très bien. Merci pour ce décryptage, en tout cas. En normand littéraire, vous l'avez bien compris, ce bof. J'ai donc un oui et trois non avant de débattre. On va retrouver notre journaliste RMC Sport, suiveur du Paris Saint-Germain, Fabrice Hawkins. Salut Fabrice.
Salut à tous.
Salut Fabrice.
Tout
Fabrice.
De même, les Parisiens, hier soir, étaient-ils fiers ?
Pas vraiment. Quelques bouteilles de champagne, des sourires, mais pas de joie excessive. Le sentiment surtout d'avoir mis un point final à une saison qui fut très longue. Paris a alterné le bon et le très médiocre, un peu à l'image finalement du milieu de terrain Vitinha. Pour le Portugais, cette première place est logique.
C'est un sentiment de fierté. Je suis très heureux d'être champion de France, d'être champion au PSG. On a mérité le championnat et on a fait pour ça. Comme on t'a dit, on est première depuis la première journée et ça dit quelque chose.
Sur les réseaux sociaux, les stars du PSG se sont empressés de faire la promotion de ce nouveau titre. Mesdames, messieurs, le monde, le plus grand club de France est le Paris Saint-Germain, s'exclame Kylian Mbappé sur Instagram également. Neymar a posté le message suivant: numéro 1 de la France. Un titre historique après une saison difficile. Entre polémiques et résultats décevants, Christophe Galtier, lui, défend déjà son bilan.
Je le répète encore une fois, mais personne ne veut l'entendre. C'est une saison très particulière. Il a fallu maintenir le cap, même quand on pensait que tout le monde avait la tête sous l'eau. Et évidemment que je rends hommage à mes joueurs qui n'ont rien lâché, qui ont toujours eu l'envie d'aller chercher ce titre, même dans des moments très difficiles. Et voilà, je suis très heureux. Et je veux surtout pas qu'on le banalise. Aujourd'hui, il nous manquait 8 joueurs. 7 joueurs ont fait le déplacement. Ils étaient présents avant le match, à l'hôtel, avant le match dans le vestiaire. Ça montre aussi l'état d'esprit qu'il y avait dans ce groupe, quoi que les gens puissent en penser.
La délégation du club de la capitale est rentrée très vite après le coup de sifflet final dans 2 avions différents. Le premier a déposé ceux qui ont accompagné le groupe mais qui étaient blessés à l'aéroport du Bourget. Le deuxième avion privé est arrivé vers 2h du matin à Roissy-Charles-de-Gaulle. Moins de 5 supporters étaient là. Parmi ces courageux, ce père de famille qui explique qu'un titre, c'est sacré, peu importe les circonstances.
C'est un vrai titre. Je pense que les gens, après, il ne faut pas faire trop la fine bouche non plus. Hein. C'est un 11e titre. On est déçus par rapport à la Ligue des Champions, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est 11 titres. C'est le premier club français à le faire. Et je pense qu'il ne faut pas le banaliser.
Les fans du PSG auront l'occasion de célébrer leur champion samedi prochain au Parc des Princes. On n'a pas encore le programme des festivités, mais Paris va sans doute mettre les petits plats dans les grands, notamment parce que ce sera le dernier match d'un certain Lionel Messi.
Et ce sera samedi 21h face à Clermont. Merci beaucoup Fabrice Hawkins. Tu restes avec nous pour ce débat. Paris fait-il quand même un beau champion ? On l'a bien compris dans ton résumé. Il y avait moins de 5 supporters pour accueillir les Parisiens. Ça veut donc dire, ça nous laisse 5 hypothèses. 1, 2, 3... 4 et peut-être 5. Allez, on va aller jusqu'à 5. En tout cas, ça dit beaucoup de cette saison très particulière du Paris Saint-Germain. Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio pour participer à ce débat. J'ai un oui, quand même un beau champion. Simon Dutin, pourquoi oui ?
Oui, c'est pas un champion inoubliable, mais parce qu'un champion, c'est toujours beau. Il y a 38 journées à gagner. Je pense qu'on a tendance à dévaloriser le titre de champion de France ces dernières saisons. Tu vois, en Allemagne, à chaque fois que le Bayern l'emporte, 12 fois de suite, 11 fois de suite, on dit toujours que c'est un beau champion. Alors, effectivement, Paris gagne avec moins d'avance que certaines saisons. Donc, il y a deux façons de le voir. Soit Paris est moins fort qu'avant, moins dominateur. Soit, il y a plus de densité derrière. La concurrence s'est un petit peu resserrée à ce titre-là. C'est magnifique. Alors oui, ils auraient pu faire mieux. Oui, ils auraient pu encaisser moins de buts. Mais bon, lorsqu'il a fallu battre les équipes qui les suivent au classement, ils ont fait quand même des gros matchs. Je pense à la victoire contre Lens il y a quelques semaines. Je pense au 3-0 au Vélodrome alors qu'ils venaient de se faire éliminer en Coupe de France. C'est le titre qui leur donne ce record historique. 11 titres. Quand tu vois à quel point Saint-Etienne est au panthéon du football français alors qu'ils gagnent plus rien depuis 25 ans ou 30. C'est toujours les Verts, Saint-Etienne, le record de titres de champion de France. Bon, ben là, Paris le dépasse. Parce que, qu'on le veuille ou non, ce trio d'attaque, même s'il a laissé plus de frustration que de bonheur, Messi, Mbappé, Neymar, tu verras que dans 20 ans, il y aura des mecs sur Instagram, sur Twitter qui te dira, on n'oublie pas.
Ça existera toujours.
C'est toi là. Oui, les applications auront peut-être changé, j'en sais rien, mais nous, on sera Keblo sur, tu vois, sur celle-ci. On dira, oui, ces trois-là, on joue ensemble. Messi, hier, il a battu, c'est le but du titre, il a battu le record de but historique dans les cinq grands championnats pour l'histoire. Et puis voilà, je te dis, la Ligue des Champions a dévalué un petit peu, et puis l'obsession de Ligue des Champions du club a dévalué un petit peu le titre. On est blasé, mais je suis désolé, tu gagnes le titre, ça se respecte. Et puis il y a eu l'effet Coupe du Monde qui a coupé la saison en deux. Donc voilà, non, je suis désolé, quand tu gagnes le titre, tu le respectes. C'est un beau titre, c'est pas un titre inoubliable.
Ok, ce n'est pas un titre inoubliable, mais c'est un beau titre. Il a du mal à être convaincu, David Douillet.
Non, mais enfin, moi je vais juste faire un petit parallèle qui peut pour certains paraître ridicule, mais je vais vous parler de cylindrée, je vais vous parler de moto et de mobilette, voilà, et je vais vous parler de budget de club. Voilà.
Il me semblait, tu partais sur les cylindrées, voilà, mais sinon non, il a parti
voilà,
sur budget.
Voilà mon raisonnement. Le PSG, c'est un budget prévisionnel à peu près pour cette année de 700 millions d'euros, d'accord. Si je prends l'exemple de Lens. Lens, on est à 62 millions d'euros. Donc, il y en a un qui a un moteur de 700 cm3 et l'autre qui a un moteur de 62 cm3. Pour les spécialistes, 62 cm3, c'est un moteur de mobilette. Donc, ils font un championnat, en réalité, avec une moto de course contre des mobilettes. L'OM, c'est 250. L'OL, c'est 250. Monaco, c'est 240. L'OGC Nice, on descend tout de suite à 100. Et Lille, c'est 100. Voilà, je vous donne les ordres de grandeur. C'est-à-dire que on est en train de se pavaner devant un club qui est 11 fois champion.
Personne
ne se
pavane.
Qui en réalité est construit, et tant mieux, et ça, c'est pas une critique. Il est construit pour la Ligue des Champions et il est seulement fait que pour ça. Donc ouais, admirer le club qui roule en 700 cm3 contre des gens qui sont deuxième à 62 cm3. Moi je dis bof, voilà,
ils font pas la même. Personne se pavane, David, personne n'admire personne et surtout moi j'en ai ras-le-bol qu'on réduise tu vois la Farmers League là comme disent les Anglais, moi j'en ai ras-le-bol d'entendre ça. Alors oui, il y a moins d'argent dans les autres clubs, mais je suis désolé. À Marseille, il y a Lens, il y a Lyon, il y a Nice, il y a Lille, il y a Monaco,
et ce sont des bonnes
équipes, il y a des bons joueurs. Mais ça joue au foot.
Tu sais,
il y en a marre, c'est pas un championnat
tu sais
de pinpin. Il y a du foot en France.
C'est une question de prix avec les bons
mais
joueurs.
Mais tu peux
les
pas ramener tout à l'argent, David.
C'est vrai.
Je vais essayer de vous départager peut-être. Moi, je pense que je fais la synthèse de vous deux. En fait, il y a ce qu'on nous a vendu, le rêve qu'on nous a vendu, ce Paris Saint-Germain. Moi, j'étais supportrice, entre guillemets. J'avais dû choisir un club par défaut et donc je suivais les prouesses du Paris Saint-Germain, mais avant l'ère Qatari. Et c'est vrai que quand ils sont arrivés, de ma Savoie profonde, on s'est dit waouh, ça va être une dinguerie, ils vont acheter des joueurs de foot, on va voir du foot. Moi je me suis juste projetée sur du foot, quoi, du sport. Et c'est sûr que je pense que tant que ils ne survoleront pas cette Ligue 1 en mettant 4 buts par match sur une passe D de Neymar qui fera marquer Kiki de la tête après avoir traversé le terrain à cloche-pied, on ne sera pas satisfait du champion qu'il est, et on sera encore dans l'attente d'un doux rêve et en fait finalement je me dis peut-être que ça n'existera jamais.
J'y sais la rappeler, en fait. C'est la première fois dans l'histoire du championnat de France que une équipe gagne le titre en étant leader de la première à la dernière journée. Mais bon, oui, ils ont quand même fait une saison en plastoc.
Oui, alors moi je retiens qu'ils ne gagnent qu'à la dernière journée.
Mais arrête, il y a des années ils avaient le même budget, David, je te laisse la parole, Renaud, et ils l'ont pas gagné avec Emery, avec Pochettino, l'année où Ancelotti arrive. Bon, c'est effectivement ces années-là, tu peux considérer que c'est un échec. Bon, les années où ils remportent pas le titre, tu peux leur tomber dessus. Les années où ils gagnent le titre, tu peux leur accorder qu'ils ont, je sais pas, qu'ils ont fait une saison. Voilà, ils ont fait le job, ils ont fait une saison correcte.
Et d'autant,
Simon, c'est toi qui es quelqu'un de lettré. C'est pas à toi que je vais dire à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
Moi, ce que je te dis, c'est qu'il y avait du péril. Il y a une densité qui s'est resserrée. Il y a de belles équipes, des entraîneurs qui jouent au foot. Et c'est pas parce qu'il y a pas d'argent qu'il y a pas un niveau de jeu élevé.
Et à un moment donné, et Renaud, je vais aussi te donner la parole dans une heure. Non, pas promis, c'est dans moins d'une minute. Non, mais juste pour compléter ce que dit Simon, demain, qui est tout seul sur ce débat ce matin. Tu vas voir, c'est génial. Il y a déjà le fait, et c'est vrai que Christophe Galtier l'a rappelé. On peut toujours se dire que c'est un paravent, que il se couvre avec ça, mais il y a cette Coupe du Monde qui est très particulière pour lui. Et il dit, je n'ai cessé de vous le répéter. Et ça, vous voulez pas l'entendre. Ça, c'est un premier argument. Et puis le deuxième, c'est quand on regarde les chiffres. Il y aurait 88 points si le PSG s'impose face à Clermont lors de la dernière journée. 88 points, ça les place dans les 5 saisons les plus réussies de l'ère qatari. On navigue souvent entre 80 et 95 points. Ça dit aussi quelque chose d'une équipe tout de même. Et au moment où ça a été dur, au moment où ça a été extrêmement compliqué avec cette défaite en Ligue des Champions, où Paris aurait pu perdre ce titre, parce qu'on en parlait, bah au final, Paris a réussi quand même à le gagner. Renaud Longuet.
Mais qui a parlé d'être invincible, de faire ce qu'avait fait Arsenal en début de saison? Qui?
C'est
Paris Saint-Germain. Ouais. C'est les Parisiens qui ont parlé de ça. Moi, je crois que Monsieur Simon Dutin et Monsieur Jean-Christophe Drouet, on n'est pas dans la question. La question qui a été posée, c'est Paris fait-il un beau champion? Il y a l'adjectif beau. Donc, quand il y a l'adjectif beau, on parle d'esthétique. Si on parle d'esthétique, pour moi, il y a deux paramètres. L'image et le beau jeu. Le jeu. L'image, excusez-moi messieurs, je vais être obligé de vous refaire la chronologie de ce qui s'est passé cette saison. L'image du PSG a été polluée par énormément d'événements extrasportifs. Le dernier en date, c'est l'aller-retour de Messi en Arabie Saoudite. On a eu la rave party de Bougival avec les nuisances sonores du citoyen Neymar qui enquiquine son voisinage.
Ouais, vu tout ce qui s'est passé, ça c'était une petite goutte d'eau. Hein.
Oui. Non, mais je veux dire, toute la saison a été polluée en termes d'image. Ça, malheureusement, il y a aussi l'affaire du char à voile. Après, il y a eu l'affaire de les problèmes passés de Christophe Galtier à l'OGC Nice et les allégations de discrimination.
On va pas tous les faire, sinon on est encore
ça n'a rien à voir avec le terrain, avec la performance. On parle pas ballon là quand on parle de ces histoires.
Mais oui, mais si tu
justement,
veux,
il y a un effet déformant à cause de ces choses-là.
Mais Simon, ça altère l'image. Donc, je veux dire, l'esthétique, elle est touchée. Donc, tu peux pas parler d'un beau champion. Et après, si tu parles de jeu, excuse-moi, là, par contre, je vais te livrer le fond de ma pensée. Et Kylian Mbappé, peut-être, va grogner. Mais c'est Kylian Mbappé est un beau champion. Oui, Kylian Mbappé est un beau champion. Mais qu'est-ce que c'est que cette équipe du Paris Saint-Germain sans Kylian Mbappé cette saison? Elle plonge, cette équipe, bonne elle question. Plonge. Elle n'est plus championne. Si Kylian Mbappé n'est pas là, parce que on parle de la Coupe du Monde, qui a réussi à se remobiliser après la Coupe du Monde et à jouer chaque match comme un chien pour aller gagner ce titre? Kylian Mbappé. Oui, lui, il a réussi à le faire. Les autres, ils ont plongé. Neymar et Messi, après Coupe du Monde, c'est pas Neymar et Messi d'avant Coupe du Monde. Mbappé, oui, lui, il est allé chercher le titre. Mais sincèrement, le fond de jeu, est-ce que Vitinha a marqué la saison? Est-ce que Donnarumma est le gardien qui a dominé la Ligue 1? Sergio Ramos, oui. Là, pour moi, c'est un mec, c'est un vrai pro. Ça, c'est un mec, lui, peut-être le titre okay. Paris lui doit. Mais je veux dire, à part Kylian Mbappé, il repose sur les épaules de quel joueur ce titre cette saison? Est-ce qu'il repose sur une esthétique de jeu, sur un beau jeu? Non. Ben non.
Et Christophe Galtier dans tout ça, je vous propose de l'écouter hier en conférence de presse. On lui a posé la question une nouvelle fois de son avenir. Et pour lui, il mérite de garder son poste. Qu'en pensez-vous après les GG? On écoute Christophe Galtier.
Pourquoi je le mérite? Parce que je me suis donné à fond dans cette saison, avec beaucoup d'énergie tout au long. Nous avons su et j'ai su maintenir le cap dans les moments très 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 difficiles. Que ça soit sur un plan professionnel, que ce soit sur un plan personnel. Vous m'avez pas épargné. Nous sommes champions de France. Nous avons gagné le trophée des champions. Les saisons catastrophiques au Paris Saint-Germain, c'est quand on n'est pas champion. Oui, j'estime personnellement que je mérite de continuer.
Fabrice Hawkins, il y croit vraiment?
Oui, oui, il y croit vraiment. Moi, c'est le retour que j'ai, hein, entre le moment où ils ont été éliminés et ce titre de champion de France. Il s'est passé beaucoup de choses et Christophe Galtier a notamment pu souffrir, même personnellement, des attaques qu'il a pu recevoir. Et c'est vrai qu'il y a un moment donné où il donnait l'impression, en tout cas en privé, de plus trop y croire. Et ces derniers jours, c'est vrai que le son de cloche qui revient, c'est que effectivement, si le Paris Saint-Germain n'arrive pas à recruter quelqu'un, si personne n'arrive, Christophe Galtier pourrait être une alternative. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. Forcément, lui aussi a eu ce son de cloche-là. Et oui, quand vous posez la question de savoir s'il y croit vraiment, oui, je pense que quand il dit ça hier soir, il est sincère, même si dans les plus hautes sphères, et à Doha et ici à Paris, on cherche activement un entraîneur et depuis déjà plusieurs semaines pour le remplacer.
Ouais, il y croit très bien, mais il dit autre chose. Je mérite de rester.
Oui, mais on l'a dit hier, tu sais, dans l'after, dès qu'on parle du PSG, sur l'application Direct Studio, il y a la majorité des messages de supporters t'expliquent que Galtier, c'est pas le problème. Et effectivement, moi, je pense qu'il va quand même sauter. Parce
mais est-ce
que
qu'il mérite de rester?
Qui mérite? Moi, ma théorie, c'est que, encore une fois, l'an dernier, Luis Campos, là, qu'on nous vend comme le génie du football, arrive en nous disant, écoutez les gars, les entraîneurs clinquants et tout, moi j'ai mon gars c'est Galtier, vous allez voir, il est parfait pour ce projet et tout. Et encore une fois, nous on se dit, ah ben on est des pimpins et tout, lui il connaît le foot, il va nous montrer qu'un Galtier, qu'on pensait pas fait pour ces altitudes-là, avec un vestiaire comme ça, il connaît machin, il a eu raison en plus pendant 3 mois, parce que ça arrive dans les arguments sur la saison du PSG, ils ont fait, avant la Coupe du Monde, une très très belle impression en championnat, ils ont rincé tout le monde, c'était un rouleau compresseur. Donc, Luis Campos, si tu m'expliques que c'est Verratti le problème, que c'est Messi le problème, un des pires joueurs de l'histoire du PSG, cet Argentin, là, même malgré ses stats, qu'il faut les dégager, tous ces mecs-là, bon, ben, à ce moment-là, si t'es fidèle à ta ligne de conduite de l'an dernier, je parle de Campos et de la direction parisienne, tu dis, ok, Galtier, l'an dernier, mon pauvre, on t'a mis des joueurs pas faciles, hein, Verratti, Messi, c'est compliqué. Donc, là, ils sont plus là, vas-y, c'est quoi ton projet? On te laisse une saison de plus, t'as été champion, il a fait le minimum. Okay. Syndical, tu gardes Galtier.
David Douillet.
Moi, je pense que c'est pas Campos qui choisit ce genre de choses aujourd'hui. C'est Kylian Mbappé. C'est lui qui fait les équipes. C'est lui qui impose ça. Et il l'impose. Et en plus, quelque part, et je suis d'accord avec Renaud, il le mérite parce que c'est. Enfin, il le mérite. Il a pris le pouvoir parce que c'est lui qui mène le club. Parce que on l'enlève. Voilà. Renaud en a fait la démonstration. Donc, je pense que pour la suite, ou alors Galtier a été suffisamment malin pour se mettre Mbappé dans la poche et tout va bien. Et si c'est le cas, bah, il restera. Et si c'est pas le cas, il restera pas. C'est tout. C'est comme ça que ça va se passer. Et puis il y a aussi quelque chose de très important, c'est ce qu'il a décrit sur son contrat d'engagement. L'objectif, il y a bien une case objectif où dans un laps de temps, dans les 2-3 ans, où est-ce que tu nous mènes? Et à mon avis, l'objectif, c'est la Ligue des Champions, c'est un titre en Ligue des Champions dans tel délai, quoi. Et si ça c'est pas fait, peu importe le délai, quoi qu'il arrive, il y aura des problèmes. Donc c'est pas en gagnant 3 titres ou 4 titres de champion de France d'affilée qu'il fait son job. Parce que le club, je vais pas reprendre ma démonstration de cylindrée, mais le club n'est pas construit pour ça. Le club, il est construit pour faire une aventure européenne et pas nationale.
Il a gardé la barre, c'est ce qu'il nous dit, hein. Il a gardé la tête haute, il a tenu le Paris Saint-Germain à bout de bras. Il mérite de rester rapidement, Marie?
Non, pas rapidement, je vais te dire ce que j'ai envie de te dire depuis un moment, là, je ronge mon frein. Fabrice nous a dit un truc très intéressant, il dit le PSG s'affaire depuis 3 semaines à essayer de recruter quelqu'un. Est-ce que si c'était un si beau champion que ça, il galérerait à ce point à recruter un nouveau coach? Est-ce que il y aurait pas pléthore de coachs justement pour venir prendre les rênes de ce club-là parce que c'est un beau champion?
Les mecs, ils se disent, attends, je vais signer, si je suis champion, je me fais virer.
C'est la musique qu'on a à peu près dans tous les clubs.
C'est une autre façon de voir les choses aussi, quoi.
Non, mais tu vois, je trouve que ça en dit quand même long d'arriver à un tel point que tu ne sais même plus tu ne peux même plus recruter un coach parce qu'il ne se présente pas aux portillons, tu es obligé d'aller les convaincre. Je trouve que c'est quand même assez terrible.
Après, il y a quand même des coachs qui sont chauds pour venir, hein. Aujourd'hui, José Mourinho, tu lui offres le poste, il est plutôt partant. Thiago Motta aussi. Mais c'est vrai que les coachs qu'ils avaient ciblés il y a encore plusieurs semaines, par exemple, un garçon comme Thomas Tuchel qui a signé au Bayern Munich, il avait été sondé avant de signer au Bayern Munich, quand ça tanguait déjà, quand Christophe Galtier venait d'être éliminé avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et il n'a pas forcément donné des signaux qui pouvaient laisser penser qu'il allait arriver. Donc, il continue à chercher. C'est pas évident parce que c'est un profil quand même assez particulier qui recherche. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui ressort en disant cet entraîneur-là, c'est la cible principale et on va réussir à le faire.
Ok, bon, toutes les dernières informations, en tout cas sur le successeur ou non de Christophe Galtier, c'est à retrouver sur rmcsport.fr grâce à la cellule RMC. 9h29, on se retrouve dans quelques instants, on va continuer de débriefer cette 37e journée de Ligue 1 que vous avez vécue hier sur RMC avec la 3e place, c'est officiel maintenant, de l'Olympique de Marseille. L'OM a-t-il raté sa saison? Vous entendrez Igor Tudor et puis on saluera évidemment la performance de Lens. 2e, à tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h31, on est de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h à midi avec ce matin Simon Dutin, Marie Martineau, Renaud Longuèvre, David Douillet. Dans 10 minutes, on s'en fout pas. Roglic qui renverse le Giro. Est-ce que ça vous intéresse? Mais GG, oh, je ne veux pas savoir tout de suite. Vous me direz ça dans une dizaine de minutes. D'autres informations à vous donner avec de l'actualité. Beaucoup d'actualité hier et des résultats très importants. Forcément, nous sommes en mai. Il y a le Money Time dans différents championnats. Mais tout de suite, nous allons passer à l'OM. C'était prévisible, c'est désormais officiel. L'OM va donc terminer 3e de Ligue 1 après sa défaite hier soir à domicile face à Brest, conjuguée à la victoire de Lens sur sa pelouse face à Ajaccio. L'heure du bilan, du premier bilan a donc sonné. L'OM, cette saison, c'est 4e de son groupe de Ligue des Champions, élimination en quart de finale de la Coupe de France et donc 3e du championnat. Ça, ce sont pour les faits. Il y a aussi l'esthétique qui compte quand on parle de bilan. L'heure du bilan aussi pour Igor Tudor, c'est la punchline des GG. C'était hier soir.
RMC, la punchline GG.
À chaud, je suis un peu énervé et triste, mais l'analyse que je peux faire, c'est que je suis fier car il y a beaucoup de positifs cette saison. Je pense qu'on a tiré le maximum de cette équipe, on a proposé un bon football, on a fait une belle Ligue des Champions, les matchs en coupe contre le PSG et Rennes ont été merveilleux. C'est vrai que j'aurais espéré qu'on soit un peu plus haut dans le classement, mais je pense qu'on est à notre place. C'est un championnat qui est très difficile, on lutte sur tous les matchs, donc je pense qu'on mérite cette 3e place.
Bilan donc plutôt positif de la part d'Igor Tudor à chaud hier en conférence de presse. L'OM a-t-il réussi sa saison? Oui ou non? David Douillet.
Ouais, c'est encore un beauf normand et c'est non.
C'est plutôt non. Marie Martineau.
Un petit oui.
Simon Dutin.
En tout cas, il l'a pas raté.
Oui ou non?
Bah réussi.
A-t-il raté sa saison?
Non.
Ok, c'est non. Renaud Longuèvre.
Oui, il a raté sa saison, ouais, l'OM.
Ok, pourquoi Renaud?
Pourquoi? Tout simplement parce que David l'a rappelé, il y a des questions budgétaires. Et puis, pour moi, le tournant, ça reste l'élimination en Coupe de France face à Annecy. Parce que l'OM avait l'occasion, justement, de gagner un titre qui lui tendait les bras. En battant Annecy, donc une Ligue 2, et puis ça a fait pchit. Donc là, plus derrière la défaite 3-0 à domicile face au Paris Saint-Germain, donc gros coup sur la tête à ce moment-là de la saison. Bon, ok, il y avait possibilité de se dire allez, la saison elle est pas morte, on se remet dedans, on se fixe comme objectif la 2e place, la qualification directe pour la Ligue des Champions sans passer par le tour préliminaire, être un beau dauphin du Paris Saint-Germain qui est imbattable sur un championnat. Et puis bah ça, ils l'ont pas réussi avec la défaite à Lens, et puis ça se termine avec une défaite à domicile face au Brest d'Éric Roy, dont on salue la parfaite mission sauvetage de Brest.
Ok, David Douillet.
Moi, dans la question, même si vous êtes très pertinent pour les choisir, j'aurais ajouté un autre club dans cette question. Est-ce que l'OM, est-ce que l'OL ont réussi leur saison? Parce qu'on peut les mettre dans le même panier, les deux.
Là, on a. Je suis pas d'accord.
On a.
David.
Non mais c'est simple. Moi je vais te parler de marques et de grands clubs, tu vois, de marques qui résonnent dans la tête des gens qui ne regardent pas le foot, tu vois, qui sont à des années-lumière de ce que nous tous on peut être, qui sommes imprégnés de cette discipline. Ce sont des marques. Le PSG c'est une marque, l'OM c'est une marque, l'OL c'est une marque. Et je vais pas repartir dans les budgets, mais on a les trois plus gros budgets du championnat. Donc ces marques-là, l'OL en particulier, ils sont pas à leur niveau. Je veux dire, l'OM, pour repartir sur l'OM, il aurait dû être beaucoup plus incisif pour mordre les mollets de l'immense PSG. Voilà. Et l'OL non plus ne l'a pas fait. Et c'est Lens, un club budgétairement un cadet de la Ligue qui fait le job à leur place. Et c'est pour ça que, pour moi, ces clubs-là ne sont pas à leur rang, en réalité. Même si l'OM est troisième du championnat, ils ont fait une belle Ligue des Champions, etc., etc. En tout cas, c'est pas encore le cran au-dessus auquel ils devraient être pour aller essayer de casser la figure au premier. Voilà, ça, c'est mon avis.
Pour le côté marque, je l'entends, ces marques doivent être encore plus haut au championnat. Mais Marseille peut jouer la Ligue des Champions et Lyon va jouer aucune compétition européenne. Donc c'est vrai que, même si tu voulais changer ma question, David, on va quand même rester sur l'Olympique de Marseille.
Non, je voulais pas changer. Je voulais juste mettre l'OL dans le même panier parce qu'il le mérite.
Parce que bon, et puis t'es aussi déçu par l'Olympique lyonnais. L'Olympique de Marseille a-t-il raté sa saison? Troisième, à un moment donné, il y a eu cette histoire de match avec le PSG et au final, après 37 journées, bah, l'OM est à 12 points. Marie Martineau.
Oui, moi je t'ai dit un petit oui, ça aurait pu être un petit non, c'est un genre de ni oui ni non. J'arrive pas à trancher parce que j'ai eu l'impression qu'ils avaient des enjeux européens sur cette saison, qu'il y a encore 5 journées on nous parlait du titre pour Marseille, que donc même si je suivais ça de loin, j'avais l'impression qu'ils faisaient partie du game et qu'ils étaient là, donc je trouve que jusque là c'était plutôt réussi, surtout si on se souvient d'où ils partaient et si je dis pas de bêtises, à l'arrivée de Tudor, il y a eu des débats autour de cette table qui disaient oh là, qu'est-ce que c'est que ce coach, ils vont aller dans le mur et tout. Et puis donc j'aurais penché plutôt sur une saison un peu réussie et en même temps, et bien finalement ça, on finit un peu en queue de poisson. L'événement tant attendu n'aura pas lieu. Voilà, les ambitions européennes sont revues à la baisse. Cette fin de saison est pas très glorieuse. Alors on cache le marasme avec cet anniversaire. Cette 30e année de victoire, jamais les premiers, tout ça. Voilà, on aura parlé de l'OM quand même beaucoup cette année et je pense que c'est mieux que pas mal d'années précédentes.
On imagine, et ça tu as raison de le préciser, Simon Dutin, en début de saison, si on dit bah voilà, l'OM sera troisième de notre championnat, j'imagine que les Marseillais signent. Mais la configuration fait que bah, c'est difficile de trancher, non?
Excuse-moi, mais. Encore une fois, combien il y a d'équipes qui peuvent réussir leur saison? Alors Paris est champion, résumons. Hein, Paris est champion, mais Paris est un vilain champion. Saison pourrie pour Paris. En revanche, Lens, deuxième. Quelle équipe extraordinaire! Alors pas David va encore me parler de pognon à tous les coups, mais et quelle équipe extraordinaire! Je veux dire, ils sont à 5 points du PSG à 5 journées de la fin. Marie vient de le rappeler. Ou je veux dire, effectivement, on se dit à un moment, ils vont aller chercher le titre. Marie a raison de rappeler que Tudor, il arrive, il est sifflé au Vélodrome pour le premier match contre Reims, je crois. Ils finissent par gagner 4-1 et les mecs se disent ah, finalement, en pourquoi fait, pas? Ça peut peut-être le faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour réussir sa saison? Il faut quoi? Qu'il soit champion de France ou qu'il soit juste deuxième derrière Paris qui joue le titre à la dernière
journée?
Tu peux
pas la Coupe de France, exactement. Renaud l'a dit.
Mais non, exactement. Et la Coupe de France, ils font un match exceptionnel contre le PSG et tout le monde. Et effectivement, bon, ils se ratent, ils trébuchent contre Annecy. Là, tu peux.
Ah bah oui,
mais c'est une fois qu'on résume quoi, mais ça arrive tous les ans qu'une grosse équipe se fasse taper en Coupe de France.
Non, mais qu'est-ce qu'il faut pour que Marseille.
Qu'est-ce qu'il faut pour. Et regarde, l'an dernier, avec Sampaoli, ils terminent deuxième. Ils ont 71 points. Cette année, ils ont Tudor, ils terminent troisième avec 73 points. Ils ont fait mieux ou ils ont fait moins bien? Qu'est-ce qui est mieux? Ils ont plus de points, mais ils terminent à la troisième place. Ah, mais je te jure, je regarde le plafond là en studio, je m'interroge, je ne sais pas. Ils ont réussi ou ils ont raté? Ils ont un nouvel entraîneur, ils ont changé la moitié de l'équipe, ils ont changé de style de jeu. Ils sont pas loin de se qualifier, malgré ce qu'on dit, en Ligue des Champions. Alors oui, un groupe d'Europa League, mais en Europa League, c'est Daniel qui le disait hier, et là je suis totalement d'accord avec Daniel Riolo. On se fait cirer par tout le monde en Europa League et on dit ouais, Marseille ils ont failli se qualifier, mais bon, c'était un groupe d'Europa League avec l'Eintracht Francfort, avec Tottenham. Donc encore une fois, je ne sais pas, est-ce qu'on a envie de foutre le feu à Marseille? Mais je suis désolé, pour moi ils ont réussi leur saison, parce qu'encore une fois c'est comme pour Paris, j'en termine là-dessus, la concurrence, la densité de la concurrence s'est resserrée. Il y a Lille, il y a Nice, il y a Rennes, il y a Lens, il y a Monaco, il y a Lyon et il y a Paris. Donc voilà, ils terminent troisième au milieu de toutes ces équipes là certes, à une petite Coupe de France ça aurait amélioré le tableau, ils ont pas raté leur saison, faut arrêter.
Ok, Renaud Longuet.
Pour moi, c'est pas compliqué. Il y a trois clubs qui ont réussi leur saison. C'est Lens, c'est Clermont et c'est Toulouse.
Bon,
c'est
bah tout. Voilà. Non, mais effectivement, si on voit
c'est
les choses comme
au
ça.
Au moment où on se parle, il y a que trois clubs
on
sur les 20
Lille, hein,
qui ont
Lille
réussi
aussi,
leur saison.
On peut mettre Lille qui est pour l'instant quatrième. Hein.
Ouais, mais c'est pas fini.
Oui,
Lille, c'est pas fini. Ils peuvent se retrouver sixième.
Simon, globalement, c'est pas parce que tu t'approches d'un résultat sans l'obtenir que tu réussis ta saison. C'est exactement ce que tu nous as décrit, hein. Vraiment, hein. Et en sport, où tu gagnes ou tu perds, c'est assez binaire, hein. Mais c'est pas parce, et c'est pas le commentaire du, oui, ils auraient pu, ils étaient à deux doigts, ils ont fait, ils sont passés à côté, mais tout le monde passe à côté, et c'est comme si, et c'est comme ça. Non. Non, non, c'est factuel. C'est
ouais,
on
tu, off. Tu gagnes ou tu perds, mais tu gagnes, peux construire des choses, il y a des choses que tu construis qui servent
oui,
à plus tard aussi,
Marie,
quand même.
Mais factuellement, tu, si, si t'accroches pas, si tu gagnes pas, ben, t'existes pas.
Donc, voilà. Ils ont raté leur saison, mais s'ils avaient terminé sixième sans gagner ni la Coupe de France, ni se qualifier en Ligue des Champions, on aurait dit quoi? Qu'il faut quoi? Il faut dissoudre le club? Il faut,
année cauchemardesque. Mais
non, mais,
bah oui.
Oui, mais non, de la même manière, de la même manière, ils ont raté leur saison, ouais. C'est tout.
Ok.
Voilà, mais Longoria démission, Tudor démission, virons tous les joueurs, reconstruisons.
Simon, tu peux pas non plus, et ça c'est factuel, dire que ça gronde quand même parmi les supporters de l'Olympique de Marseille qui se demandent vraiment s'ils ont envie de garder Igor Tudor.
Ça gronde dès que ça perd deux matchs à Marseille. Tu connais la culture maison.
Oui, mais
si tu regardes
l'exigence, Simon, l'exigence. À partir du moment où tu connais la ville, à partir du moment où tu es capable, à quelques journées de la fin, de peut-être aller chatouiller le Paris Saint-Germain, de peut-être gagner une Coupe de France, il y avait un boulot. Bah, tu peux te dire que oui, ok, on fait pas une mauvaise saison, mais franchement, on en attendait peut-être.
Et donc
un petit
l'an dernier, ils finissent deuxième avec Sampaoli, ils ont rien gagné l'an dernier, et c'était une saison réussie. Et là, ils terminent une place derrière, et comme ils vont se taper.
Ils changent tous cette place. T'es qualifié ou pas directement en Ligue des Champions.
Mais tu peux aussi voir les choses, t'as quand même une chance d'aller en Ligue des Champions.
Oui,
Lille, Monaco, Lyon, Nice, Rennes, c'est
rapé. C'est souvent arrivé dans le foot français que c'est troisième place, tu vas pas forcément en Ligue des Champions.
Ah oui.
Lens, en revanche, va aller en Ligue des Champions. Lens est deuxième, oui. 20 ans après, ils vont le retrouver la C1. Le fameux « on les a chicotés », eh ben, ça a été initié samedi, pour la première fois, par le président du club, Joseph Ougourlian, en personne. On écoute. Chanter ça au Parc des Princes, peut-être pour le match face à Clermont. La dernière journée, sait-on jamais. En tout cas, bravo aux Lensois qui se qualifient donc pour cette Ligue des Champions. Ils vont terminer deuxième avec 81 points. Pour le moment, il restera une journée. Et une journée très importante tout de même pour les Lensois qui affronteront Auxerre. Auxerre qui lutte toujours pour le maintien. Ça se jouera entre Auxerre et Nantes pour la dernière place en Ligue 2. On en reparlera un petit peu plus tard. Toutes les dernières informations sur cette 37e journée à retrouver sur rmcsport.fr. Restez bien avec nous dans quelques instants. La suite des GG du sport, on s'en fout pas. J'ai du Roglic, j'ai du Oyonna ou encore du Aouas. Ça va pas forcément très bien pour le pilier du 15 de France. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h47, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Simon Dutin, Marie Martineau, David Douillet, Renaud Longuèvre. À partir de 10h, on ouvre le débat sur le Grand Prix de Monaco. C'est la 80e édition de l'histoire. Aujourd'hui, ce sera à 15h à suivre en direct en intégralité sur RMC. Monaco, vous en pensez quoi? Vous aimez ce Grand Prix ou pas? Chiant, pas chiant? Et il y aura deux teams et vous n'êtes pas d'accord sur ce débat. On rejoindra notre envoyé spécial à Monaco également. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Allez, des informations à vous donner, l'actualité de ces dernières heures, à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est Primoz Roglic qui renverse le Giro et qui renverse Geraint Thomas. On s'en fout pas. Simon Dutin.
On s'en fout pas.
Marie Martineau.
Moi non plus.
David Douillet.
J'adore.
Renaud Longuèvre.
On s'en fout pas.
Primoz Roglic a mis un terme à sa propre malédiction. À la veille de l'arrivée à Rome et une dernière étape promise au sprinter, il ne se passera pas grand-chose. Le coureur de la Jumbo-Visma a dépossédé de son maillot rose le Britannique Geraint Thomas qui a craqué dans le dernier kilomètre du terrible contre-la-montre. Hier, samedi matin, Thomas avait pourtant 26 secondes d'avance. C'est maigre, c'est vrai. Il a désormais 14 secondes de retard. C'est évidemment l'un des plus petits écarts de l'histoire du Tour d'Italie. Primoz Roglic va donc remporter son premier Giro. Je vous propose de l'écouter. C'est juste quelque chose d'exceptionnel, je veux dire. C'est pas juste le fait d'avoir gagné. C'est tous ces gens, l'énergie qu'il y a ici. C'est incroyable. C'est un moment à vivre et dont on va se souvenir. Marie Martineau sur Primoz Roglic.
Eh bien, moi, j'ai l'impression que c'est plus Thomas qui a perdu le Giro que Roglic qui l'a gagné. Vous allez dire que je joue sur les mots, mais c'est ce que j'ai ressenti hier. Dès déjà le moment où il y a le changement de vélo et où tu vois un Thomas, vous l'avez tous vu, qui se pointe la fleur au fusil, qui change de vélo tranquille, qui change de casque, qui règle sa petite jugulaire, qui repart, qui a passé 14 secondes entre les deux traits, quand à Roglic n'en a passé que 7. Et je me dis, ok, alors soit il est ultra confiant et il sait qu'il va se faire une montée de dingue, il a le feu aux fesses et des jambes de dingue, soit il sait déjà qu'il n'y arrivera pas. Et après, quand je l'ai vu défaillir comme ça, effectivement, je me suis dit, bon, bah, peut-être il le savait déjà. Mais quelle course, quel rebondissement, quelle dinguerie. Je pense que tous les commentateurs ont annoncé que Roglic avait perdu le tour au moment où il a sa chaîne qui saute, puis finalement qu'il l'avait gagné. Enfin, ça a été une dinguerie. Ça, c'était très plaisant. En tout cas, je me suis régalé hier.
Ouais, et je le disais en ouverture, c'est une belle revanche pour Primoz Roglic qui a perdu dans les mêmes conditions sur le Tour de France, la planche des belles filles, dernier contre la montre à la faveur de Tadej Pogacar. Simon Dutin.
Bah, Marie a quasiment tout dit. Je pense que c'est une étape qui rentrera dans la légende du cyclisme. Effectivement, il était connu pour sa poisse, sa malchance, parce que il y a eu la planche des belles filles, il y a eu des chutes aussi sur le Tour de France. C'est un coureur qui fait l'unanimité dans le peloton par sa gentillesse, par son sens de l'effort, par voilà, c'est pas un mec qui a su se faire détester. Effectivement, tu le vois, il y a un espèce de petits creux, alors qu'ils sont déjà c'est Pierre Amiche qui commentait l'étape. C'était un dantesque cette montée avec des pourcentages monstrueux, et le mec il déraille, il te dit mais c'est pas possible. Et puis au final tu te rends compte au dernier pointage de Thomas qu'il a complètement craqué, qu'il est en perdition, que finalement Roglic a réussi à relancer la machine, à pas se décourager en changeant de vélo, et que Thomas entre temps a perdu 35, 40, 50 secondes, que c'est un carnage. Alors oui, Thomas peut-être une défaillance, mais Roglic il a su rester dedans, et puis voilà, il a su faire l'étape au bon moment. C'est fabuleux, ils n'avaient pas réussi à se départager dans les étapes de montagne cette semaine. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et puis petite mention pour notre Thibaut Pinot qui va faire top 5 et qui regrette qu'il n'y ait pas une quatrième semaine. Marc Madiot emmène-le au Tour de France, c'est pas possible.
Tour de France et ce Thibaut Pinot, très bien. Vous voulez rajouter quelque chose, David Douillet?
Ouais, juste, tout a été dit, mais moi, j'aime bien le côté mental de cette affaire-là, quoi. Le gars, il a pas craqué, quoi. Même à 2 kilomètres de l'arrivée, lorsqu'il a son problème mécanique, il craque pas, quoi. Il va jusqu'au bout. Et moi, j'admire ça profondément. C'est le compétiteur pur et dur.
Allez, deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Mohamed Aouas en garde à vue pour violence conjugale. On s'en fout pas. Renaud Longuèvre.
On s'en fout pas.
David Douillet.
Ouais, je m'en fous, mais le principe, non, je peux pas m'en foutre. Je m'en fous pas.
Ok, Marie Martineau.
Je ne m'en fous pas.
Simon Dutin.
Allez, je m'en fous.
Le pilier droit de Montpellier du 15 de France, Mohamed Aouas, a été placé en garde à vue, donc pour violence conjugale. Je le disais, Aouas aurait été interpellé en centre-ville de Montpellier par des CRS, où se seraient tenus les faits, puis conduit au commissariat. Il sera entendu mardi à 13h30 en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Selon le Parisien, le joueur de Montpellier a poursuivi sa compagne avant de lui asséner un coup et de lui mettre une balayette à proximité d'un centre commercial. Une scène filmée par des caméras de vidéosurveillance, et c'est important car dans un récent procès qui porte sur une bagarre intervenue en 2014, le Français risque déjà 24 mois de prison avec sursis. Renaud Longuèvre.
D'abord, on n'est pas là pour rendre la justice, hein, faut quand même le préciser, donc jusqu'à un jugement par la justice, il est présumé innocent, mais a priori, c'est un garçon qui cumule quand même les problèmes judiciaires, donc je pense qu'il a besoin d'être aidé de manière assez urgente, voilà, dans sa vie perso, parce qu'il y a quand même un parcours qui me semble assez compliqué et assez difficile à concilier avec une carrière de très très haut niveau.
Et évidemment, je vous demande aussi de commenter le fait que c'est un joueur de ce 15 de France qui est revenu lors du tournoi des Destinations, et il y a la Coupe du Monde dans quelques semaines. Marie Martineau.
Alors, je vais essayer de choquer personne, mais il est quand même intéressant que certaines fois, ce genre d'histoire soit publique, concerne des gens plus connus que les autres, pour remettre encore une fois la lumière sur ces affaires-là, qu'on en reparle, parce que j'ai l'impression quand même d'une douce musique qui est là comme ça en fond de tableau, et même s'il y a de plus en plus de choses de mise en place quand même pour ces femmes, on reste quand même à des taux de féminicide qui sont hallucinants dans un pays comme le nôtre. Peut-être que je vais voir le côté positif de tout ça, c'est que ça va encore faire parler et il faut vraiment qu'on continue à en parler toujours.
Chose assez surprenante tout de même, c'est la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui s'est emparée du sujet hier, qui a tweeté: s'ils sont établis, les faits de violence conjugale reprochés à Mohamed Awas sont inacceptables.
Oui, merci.
David, assez surprenant de la part d'un ministre des Sports comme ça de parler de cette affaire. Il y a une comparution immédiate, mais de tweeter là-dessus, non?
Ouais, il y a un petit effet d'opportunisme. Je trouve que et Marie a raison, qu'on se serve de certaines têtes connues parce qu'ils sont incapables de se maîtriser, surtout quand on a un corps de bœuf, hein, voilà, quand on est costaud, etc. Enfin, je veux dire, il fait une discipline sportive, normalement il doit avoir du sang-froid, le sang-froid c'est ce qui caractérise les grands champions. Voilà, les faits démontrent que c'en est peut-être pas un, malgré son aventure en équipe de France, et que ce type d'action n'a pas de place dans notre société moderne, et encore moins dans le monde du sport et quand il s'agit d'un sportif. Je veux dire, c'est encore plus grave pour quelqu'un qui normalement est censé avoir le mental pour se maîtriser, parce qu'il pratique quelque chose dans sa vie qui fait que il a toutes les armes pour se maîtriser. Voilà, donc. C'est inqualifiable, même si présumé innocent, etc., etc. On sent qu'il y a une récidive, on sent qu'il y a des faits qui sont déjà établis. Il sera condamné pour peut-être deux choses qui ont un intérêt commun, c'est-à-dire la violence physique. Bon, voilà, je pense qu'il faut marquer le coup, quoi. Et c'est pas que la ministre réponde après coup, une fois que la justice s'est passée, c'est son rôle, parce qu'elle doit pas. Elle ne devrait pas se servir de ça, parce que on peut la taxer de politiquement se servir du truc, quoi, pour exister, et ça c'est pas bien.
Ok, pour revenir au terrain, sachez qu'Oyonnax monte en top 14 après sa victoire face à Grenoble. On n'a pas forcément le temps d'en parler, mais Grenoble pourra toujours tenter sa chance la semaine prochaine en affrontant le 13e de top 14. Ce sera soit Perpignan, soit Pau. Voilà pour le rugby. Toutes les informations sur l'affaire Awas et sur cette accession d'Oyonnax en top 14, c'est à retrouver sur rmcsport.fr. On se retrouve dans quelques instants autour du Grand Prix de Monaco. Ce sera le bras de fer. C'est chiant, c'est pas chiant? Dites-nous ce que vous en pensez. On va régler le débat une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît. On sera avec notre envoyé spécial Valentin Germain et puis notre expert Formule 1, Jean-Luc Roy. A tout de suite sur RMC.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.